Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Scooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast de RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec mon meilleur ami, cofondateur du podcast, Loïc Tanzi, le dénicheur de talents. Salut Loïc.
Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bah très bien, très bien. Écoute, je suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois cette semaine. Mathieu Bodmer est à distance pour une fois. Mathieu, c'est l'analyste de la Dream Team RMC Sport. Salut Mathieu.
Eh oui, il est celui-là.
Salut à tous.
Et il a pris un peu de vacances, je crois, sur la côte.
Non, c'est pas les vacances, je suis chez Loïc, j'ai un truc à faire aujourd'hui.
Ah, bon, d'accord.
Il va aller au café des Aiglons. Il va rencontrer les supporters de l'OGC Nice avant, puisqu'on enregistre ce podcast avant le match Nice-Marseille.
Voilà. Donc, ils sont là une fois chacun. Une fois, c'est Gourou qui est à distance. Une fois, c'est Mathieu. Olivier Gall est donc en studio, ambassadeur français de Football Manager. Salut, Olivier.
Salut,
Olivier.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, les gars, l'épisode de cette semaine est consacré à un joueur tout juste majeur, déjà titulaire chez les pros, Brahim Traoré. Défenseur du Stade Malherbe-Caen, deuxième plus jeune joueur professionnel de l'histoire du club normand, derrière Mbaye Niang. Pierre Ducrot, son agent, un ami des RMC Sport, est en studio avec nous. Salut Pierrot.
Bonjour messieurs.
Il a récupéré celui-là, le pif de Pierrot.
Ouais, ça fait un petit... Alors non, je vais être totalement honnête, on en parlera sûrement, mais c'est le pif de mon associé, Pierre Dutcher.
Très bien.
Il l'a vu pour la première fois.
Il y a combien de temps?
Il y a maintenant quasiment 3 ans et demi, je crois.
C'est toi qui prends l'oseille, on s'en doute.
Non, c'est la partie administrative de la boîte.
Et celui que vous entendez rire, c'est Nicolas Seub, directeur du centre de formation Canet, qui est également avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Salut Nicolas.
Je veux juste, je te coupe parce que c'est très important, mais tu sais que sur les mineurs en France, on touche pas d'argent, nous.
Oui.
Et Brahim vient d'avoir 18 ans.
Mais il connaît pas les règles.
Donc quand tu parles d'oseille, on n'est pas du tout là-dedans pour l'instant.
Ah là, si maintenant, à 18 ans, tu vas pouvoir commencer à
maintenant. Maintenant.
Excusez-moi, vous allez me flinguer mon sommaire?
Ouais. Quand il y a des erreurs déjà dans le sommaire, on le flingue.
Je rappelle pas les règles. Il est juste là pour présenter les émissions après tout ce qui est technique et tout, c'est pas lui.
Exactement. Voilà, chacun son rôle, monsieur. Les fidèles de Scooting, je vous rappelle, allez vous abonner sur les plateformes de podcast. Si la voix de Loïc Tanzi vous manque, si vous voulez savoir où on est le Scooting FC, n'hésitez pas, c'est parti pour Scooting. Et donc, on parle aujourd'hui de Brahim Traoré, un joueur canet, un défenseur de 18 ans. Loïc Tanzi, la différence du profil d'aujourd'hui par rapport à ceux qu'on a déjà évoqués, c'est que c'est un joueur qui est dans un club de Ligue 2, mais lui, qui joue professionnel, qui avait terminé la saison dernière avec les pros, et là qui, depuis un mois ou deux, a retrouvé une place de titulaire dans l'équipe de Stéphane Moulin.
Exactement, qui est né le 4 février 2004, donc il vient tout juste d'avoir 18 ans. Il a joué 16 matchs avec Caen en Ligue 2. Alors on a un peu dérogé à notre règle qui était de ne pas faire de joueurs 2004 ou plus jeunes qui avaient joué plus de 10 matchs en pro.
Tu considères pas la Ligue 2, toi?
Bah si, on la considère, mais on a estimé que le grand public, en tout cas, ne connaissait pas assez bien encore Brahim Traoré et qu'on pouvait encore faire un peu de scouting avec lui. C'est un 2004 qui joue défenseur central, mais qui peut jouer aussi milieu défensif. Il a déjà joué à ce poste-là de milieu défensif, qui est né à Rennes et qui a commencé avec le futsal. Dans son petit village, on a parlé un petit peu dans ce coaching de futsal depuis maintenant quelques épisodes avec quelques joueurs qui ont fait du futsal avant d'arriver chez les pros. Donc c'est un joueur qui se comptera pour l'instant jusqu'au 30 juin 2024. On va parler de ça ensuite avec Pierre Ducrot.
Merci Loïc. Mathieu Bodmer est ravi que l'on parle de Brahim Traoré parce que c'est un joueur que tu connais très bien, Mathieu.
Oui, je le connais un petit peu plus depuis un petit peu plus longtemps que vous tous parce qu'il jouait avec mon fils en équipe d'Armandie il y a quelques années. Un joueur que j'ai toujours apprécié, comme l'a dit Loïc, milieu défensif à l'époque, ou défenseur central, voilà, avec un gros volume de jeu, grosse capacité, qui a une évolution très rapide à Malherbe.
Quelles sont ses notes dans Football Manager, Gourou?
Déjà, en effet, il est noté comme défenseur central, avec des petites aptitudes de milieu def. On a une note de 9 dans son mauvais pied, donc qui est son pied gauche dans le jeu. Je ne sais pas si cette fois c'est bon.
Il est polyvalent, pour en parler.
C'est mal noté, ça.
En termes d'attributs, ses attributs majeurs où il est à 14, c'est en courage et en détente.
Ah.
Et ensuite, on trouve à 12, puissance, jeu de tête. et ses autres attributs qui sont anciens, donc pas tous.
Je vois la gens qui plissent les yeux comme ça.
C'est mal noté, c'est mal noté, ça, bon, t'as connu meilleur.
La détente, c'est justement pas son point fort.
Ah ouais?
Ouais, ouais, justement, il faut qu'il bosse là-dessus. Bon.
Bah, vas-y, Pierre, fais-nous une description du joueur qu'il est.
Si vous le permettez, je reprends mon rôle et on va se concentrer
sur Pierre.
On n'a pas démarré sur la description d'habitude, je fais la description. Laisse Pierre faire une description.
Non, parce que le problème, c'est que Pierre Ducrot, il va nous vendre ce produit.
C'est pas vrai, l'objectif.
Je suis très déçu parce que les années qu'on a passées ensemble, tu devrais savoir et te rappeler que je suis très objectif.
Mais vous connaissez les coulisses de l'émission et vous savez qu'on doit passer la parole à Nicolas Seux, patron du centre de formation Canet, qui le connaît bien puisqu'il l'a eu en U19 et qui va pouvoir nous parler de ce joueur. Donc joueur polyvalent, Nicolas Seux, première question toute simple, quel est le meilleur poste de Brahim Traoré, défenseur central ou milieu de terrain alors?
Alors pour moi, défenseur central sans hésiter, à l'heure où on se parle. Voilà. L'avenir nous dira si j'avais raison, mais en tout cas j'y vois plus d'aptitude à réussir à ce poste-là que milieu de terrain.
Qu'est-ce qui fait qu'il est mieux en défense centrale aujourd'hui?
Bah, de part déjà sa vélocité, je pense qu'il manque de vitesse d'exécution au poste de milieu de terrain. Je pense qu'aussi au milieu de terrain, c'est sa capacité à jouer dos au but qui va lui poser problème, alors que sur la rampe de lancement, c'est-à-dire sur la base de relance, il est capable d'avoir une très belle passe pied droit au pied gauche. Je reviens sur les notes du pied gauche. C'est un garçon qui a vraiment les deux pieds et qui excelle sur les deux pieds. Donc il faudra réviser les notes sur son deuxième pied.
Crac, prends ça, Football Manager.
Non, mais parce que j'ai une anecdote à ce sujet-là. Jean-François Perron, responsable de la préfo à l'époque, l'a fait jongler devant toute la préfo alors qu'il arrivait au club. Il était à l'aise du pied droit et du pied gauche, chose que n'étaient pas capables les autres joueurs.
Ah ouais.
Voilà, tout simplement. Après, si on parle de pif, il faut quand même rendre hommage à Francis de Tadeo parce que c'est lui qui l'a fait signer au club. Donc le pif, il vient de là déjà.
Alors qu'il a fait des essais à Rennes, il me semble,
à
Brest,
fait.
Nantes aussi.
Ouais.
Oui. Et il a choisi ensuite de venir au Stade Malherbe.
Alors, c'est délicat pour le patron du centre de dire ça, mais est-ce que c'est le plus gros talent chez les jeunes à Caen?
Le talent, pour moi, alors la problématique, c'est tout dépend où on, comment dire, c'est le lexique du talent. Non, mais il y a beaucoup de joueurs talentueux. Maintenant, le talent, c'est à lui de s'exprimer sur le terrain. Et moi, je parle de talent à partir du moment où on dure et on est performant tous les week-ends. Donc, on verra s'il dure et s'il est performant tous les week-ends. Donc, en tout cas, il en a les aptitudes. Maintenant, c'est la durée qui va nous déterminer s'il est talentueux ou pas.
Pierre, est-ce que tu veux nous décrire un peu le joueur qui est dans ton écurie? Voilà, un petit poulain à toi, donc Brahim Traoré. Comment tu le définirais alors?
Si on parle uniquement du joueur, on parlera peut-être du garçon un peu plus tard. Mais pour moi, le joueur, oui, effectivement, c'est ça. C'est un joueur qui a les deux pieds. C'est un joueur qui est déjà très, très à l'aise quand il est face au jeu. Je rejoins Nico là-dessus. Dans les catégories de jeunes, il était effectivement souvent au milieu. J'ai un souvenir, moi, du tournoi du Val-de-Marne où sur deux matchs avec l'équipe de France, il fait le premier en défenseur central.
L'équipe de France, U18 aujourd'hui.
Ouais, voilà. Donc là, c'était une catégorie en dessous, U16 à l'époque. Il démarre le deuxième match milieu défensif et il le finit même la dernière demi-heure en dessous l'attaquant. Mais je rejoins en grimpant de niveau, je rejoins Nico, il est beaucoup plus à l'aise face au jeu, il est capable de mettre des petits ballons par-dessus les milieux de terrain, pied droit ou pied gauche, comme il veut. Il est très à l'aise dans la relance, ce qui peut amener parfois un axe de travail pour lui, c'est-à-dire la concentration, la vigilance, et ce que réclame effectivement le haut niveau avec des vieux roublards devant lui.
Bon au duel?
Bon au duel parce qu'il a cette agressivité. Par contre, là, pour revenir, je suis désolé pour les notes de Football Manager, mais sur l'aspect physique, un garçon qui a besoin de se remplir au niveau des jambes aussi pour être justement.
Pour la détente sur Football Manager, c'est la hauteur à laquelle qu'il atteint.
D'accord.
Il fait 1m90.
Il fait 1m90. Effectivement, il va haut déjà naturellement sans avoir encore, pour moi, toute la détente qu'il pourrait avoir s'il se remplit au niveau des jambes. Ce qui aura une influence sur la détente, ce qui aura une influence aussi sur ce dont parlait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire le pouvoir être parfois un peu plus performant dans un milieu de terrain où ça nécessite de la coordination, de la vitesse d'exécution, etc. Et c'est déjà un garçon qui avait des qualités très prononcées très tôt.
Tu me disais que ton seul regret pour l'instant, c'est de ne pas l'avoir fait signer au Havre.
Non, la récupérer à Caen, il est très bien là. Il est très bien.
Je plaisante, hein, évidemment.
Oui, tu l'as récupéré, il était déjà à Caen.
Oui, nous, il était déjà à Caen, ouais, tout à fait.
Ah, bah, t'as raté ton coup, c'est dommage. Non, plus sérieusement, Nicolas Seux, c'est vrai que la chance qu'il a par rapport au profil dont on a parlé précédemment dans Scouting, des joueurs qui évoluent dans de grosses structures, on a parlé de joueurs parisiens, de joueurs lyonnais, etc., c'est que lui, il connaît déjà le monde des pros. Il a connu cette fin de saison galère avec le sauvetage à la dernière journée, dernier match contre Clermont. Il était titulaire dans ce match de la mort. Ça aussi, c'est une prise d'expérience exceptionnelle. Et est-ce que vous, en tant qu'entraîneur de Brahim, vous avez été surpris de le voir répondre présent dans ces moments-là?
Surpris de la maturité. parce que il faut se replacer dans le contexte. Être en mesure de pouvoir sauver le club sur un match couperé comme celui-là, il faut quand même beaucoup de maturité, et surtout à ce poste-là. Et je trouve qu'il a rempli la commande au-delà de nos espérances. Donc oui, surpris à ce niveau-là. Après, sur les qualités intrinsèques du joueur, non, pas surpris par rapport à sa prestation. En revanche, surpris sur la maturité, oui.
Et quand vous parlez de maturité, qu'est-ce qui vous a surpris justement chez lui, le fait qu'il n'ait pas de pression ?
Mais j'aurais aimé être dans sa tête. Ouais, parce que,
ça, nous aussi.
Parce que franchement, enfin, pour avoir vécu des maintiens la dernière journée, et, comme on dit dans le milieu, il faut en avoir quand même. Ah ouais. C'est pas si simple que ça. Et puis c'était un contexte très particulier, personne dans le stade, beaucoup de jeunes sur le terrain. Il fallait vraiment faire un exploit, et malgré l'espoir, on pouvait ne pas se sauver. Donc je pense qu'il a tout simplement appréhendé la compétition de la meilleure des manières. Je pense qu'il s'est pas posé 36 000 questions. Et c'est aussi l'insouciance qui fait que des fois on n'est pas en capacité d'analyser ce qui se passe vraiment. Et des fois d'être très jeune, ça permet de peut-être dépasser l'entendement, dans le sens où quand on est un peu plus mature aussi, des fois on pense plus aux conséquences qu'au match. Et peut-être que lui, sa jeunesse lui a permis de passer au-delà de ça. Peut-être.
Et il a toujours été comme ça alors, dans sa formation ?
Oui. Alors d'apparence comme ça, il paraît toujours nonchalant. On dirait qu'il est ailleurs. Mais une fois engagé sur le terrain, c'est une autre personne.
Nicolas, donc un joueur de caractère.
Ouais. Je le pense.
Et d'ailleurs, il a porté le brassard en équipe de jeunes, en équipe de France. Hein, j'ai vu ça. Deuxième sélection, c'était en quoi ? En U16, ouais. Il me semble. Tout de suite, on lui a donné le brassard.
On en parle souvent avec Mathieu, à chaque fois, de tous les jeunes qu'on a fait quasiment jusqu'à maintenant en scouting. Ouais. Tous ont du caractère. Alors justement, ils s'expriment différemment, mais tous ont du caractère.
Moi, j'ai peut-être un décalage, mais voilà, Nico l'a sous la main au quotidien, donc je le crois volontiers. Mais j'ai un décalage de perception, en tout cas, sur le plan mental de Brahim. J'avais la chance, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'il y a prescription, j'avais pas forcément le droit d'y être à l'époque, mais le dernier match l'année dernière, j'y étais au stade, moi. Ouais. Nico a raison, c'était un match de maintien, un match où il y avait énormément de pression. Avant le match, moi je sens un Brahim qui est tout à fait serein, effectivement, et il a cette capacité-là. Alors je ne sais pas si intérieurement il le vit aussi sereinement que ce qu'il laisse paraître à l'extérieur, mais en tout cas extérieurement, c'est un garçon où on a toujours l'impression que ça lui glisse un peu dessus. Et moi j'irais presque à l'inverse, là où il doit peut-être progresser parfois, ou en tout cas se méfier parfois, c'est de ne pas être trop serein ou trop à l'aise, et justement de rester très concentré, de bien rester dans une routine d'avant-match, de préparation de match, le jour où il va devenir un peu plus et de plus en plus à l'aise. Okay. Mais c'est un garçon qui a cette maturité-là et ce caractère pour aborder ce genre de match.
Nicolas Seub, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dernière question qu'on voulait vous poser. Il était vraiment fort, jeune, Mathieu Bodmer ?
Mathieu, je l'ai connu très jeune. Et oui, il avait plein les pieds. Il n'aimait pas courir, c'est tout.
Ah, bon. Mais... Ah, ça n'a pas changé.
Plus vieux, c'était pareil.
C'est la bonne description.
Mais il n'avait pas besoin de courir en même temps.
Non, mais vivement qu'on retrouve, qu'on redonne le football aux footballeurs et aux gens qui ont vraiment du ballon.
Voilà, évidemment.
Vivement.
On l'attend.
Prends le message.
Vivement.
Après, si vous êtes un club.
Voilà, il faut laisser la place aux charbonneurs, parce que moi j'étais un charbonneur.
C'est ce que j'allais dire, Nico, s'il y avait eu que des joueurs de foot, on n'aurait pas fait de carrière.
Voilà, c'est ça. Mais bon. Mais il faut des complémentarités, mais il faut des joueurs qui ont du ballon quand même. Voilà.
Vous prenez soin du petit Bodmer ? Oui, tout va bien ?
Oui, bah, Timéo il progresse tous les jours. Voilà, on fait un gros travail. Timéo, il faut qu'il se lâche davantage, mais voilà, il ressemble de plus en plus à papa physiquement.
Pas la ceinture
mais
à l'hôpital.
On s'en occupe et puis on est très exigeant. On est un peu casse-bonbon, nous.
Très bien. Merci Nicolas Seub d'avoir été avec nous. Bon entraînement à vous et
merci.
À bientôt évidemment dans Scouting.
Au plaisir.
Caen qui est un vrai club formateur et dont on aura l'occasion de reparler.
Mais qui a loupé Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est Mathieu qui nous raconte ça toutes les semaines.
C'est vrai. Alors Mathieu.
Tous les clubs ont loupé des grands joueurs.
Mathieu, t'es à distance du coup, on fait que de tailler. Mais bon, tu vas quand même un peu travailler.
Non, vous avez raison, profitez, je reviens bientôt.
Ouais, c'est ça. Exactement. Je voulais t'entendre là-dessus. Il y a plein de sujets à aborder avec toi, mais. Sur le côté profil atypique par rapport au fait que lui joue déjà en Ligue 2, il a connu des matchs à pression, des matchs à tension. Ouais. Ça veut dire qu'il a une maturité supérieure aux autres et qu'il a une expérience acquise qui est déjà plus importante que tous les joueurs de son âge et de son profil.
Bien sûr, bien sûr. Après, c'est l'avantage d'être dans un club, tu l'as dit tout à l'heure, de Ligue 2 ou de moindre envergure quand tu es à Paris, à Lyon, à Monaco ou des clubs comme ça où c'est plus compliqué de percer. Moi, ça me rappelle un petit peu mes débuts à Caen. Nico le disait, moi, j'avais démarré un an avant lui. Et la première année, on avait joué le maintien comme ça, on s'était sauvé à l'avant-dernière journée. J'avais 17 ans aussi. Donc, on m'avait lancé très tôt parce qu'il y avait de la place dans l'effectif. Et Brahim, aujourd'hui, il a cette chance-là. Mais surtout, c'est parce qu'il est performant, qu'il joue régulièrement. On ne le fait pas jouer que pour lui faire plaisir non plus.
Tu es souvent très honnête, Mathieu, par rapport au potentiel des joueurs. Lui, tu le connais très bien parce qu'il a évolué avec ton fils. Ouais. Tu le vois faire une grande carrière si tout se passe bien, si la tête suit, etc.
Ouais. Ben, je pense que la tête, dans l'ensemble, ça va. Comme je te dis, j'ai eu la chance de le connaître. Moi, il n'était pas à Malherbe quand je l'ai suivi la première fois. Il était encore à Flair.
D'accord.
Ça fait quand même un petit moment. Et il a toujours été très bon. Comme l'a dit Pierre, moi, ce qui m'avait sauté aux yeux au démarrage, c'était le fait qu'il ait les deux pieds, qu'il puisse jouer plusieurs postes à 14 ans. Et il était bon au milieu défensif ou défenseur, et pas que parce que morphologiquement, il était en avance, parce qu'il a toujours été assez grand. Et il était toujours conquérant, leader sur le terrain, capitaine de la sélection de Normandie à l'époque. Donc soit c'était lui, soit c'était mon fils. Mais quand l'équipe n'allait pas, c'est lui qui prenait ce rôle de leader sur le terrain, qui engueulait les autres. Donc je l'avais trouvé très bon. Derrière, Malherbe l'avait fait signer très tôt. Et puis après, il a eu une évolution très très rapide. Et même en Ligue 2, alors il a fait une erreur il n'y a pas longtemps de relance contre je ne sais plus quel match à domicile.
Niort,
ouais. Il a fait but. Mais ouais, contre Niort exactement. Mais ça fait partie du métier quand tu joues derrière. Le tout, c'est de ne pas le faire deux fois. Mais après, les matchs qu'il fait, en général, il est... Voilà. Comme tu l'as dit la saison dernière sur le maintien, c'était, si ce n'est le meilleur sur le terrain, un des meilleurs en tout cas. Ah ouais.
Justement, Pierre, on parlait du match de Niort. Il fait cette erreur. Derrière, comment il réagit quand il fait un mauvais match ou un match
comme,
difficile?
Comme Brahim réagit quasiment à tout, c'est-à-dire qu'il est, très mature pour son âge. Directement, il essaye d'analyser. Moi, mon associé était au match, donc il en parle un tout petit peu avec lui après le match. Sa réaction, c'est ok, je vais analyser pourquoi j'ai fait cette erreur, mais pas que sur le terrain. Est-ce que j'ai bien préparé mon match ou pas? Est-ce qu'il y a eu autre chose que j'ai changé ou pas? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que j'ai mal abordé la situation dans la tête pour en arriver là? Et à partir de là, il nous a dit tout de suite, de toute manière, il n'y a qu'une solution. Lundi, je retourne à l'entraînement, je vais avoir le mort aux dents et j'y vais.
C'est la conscience de ce qu'il y a autour du match, quoi.
Comme dit Mathieu, c'est l'apprentissage. Voilà, à un moment donné, on a tous fait des erreurs. Le principal, c'est quand tu en fais une comme ça, c'est de pas en faire une le week-end d'après ou 15 jours après. C'est l'apprentissage, c'est la petite piqûre de rappel qui est nécessaire pour à un moment donné passer des caps aussi. Et ça, Brahim, il l'a mentalement et au niveau du caractère.
Ça lui vient d'où?
Ça lui vient qu'il est, c'est un garçon. Il y en a encore heureusement comme ça. C'est de plus en plus compliqué, vous le savez. Mais il y a des jeunes qui ont encore certaines bonnes valeurs et très bonnes valeurs. Brahim, vous lui dites, tu vas arriver en retard 5 minutes à l'entraînement. Il est en sueur, quoi. Il veut pas. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Il a horreur de ça. Ouais, il est déjà pro dans sa tête. Il a pris un appartement cette année. Il fallait que tout soit un peu prévu, etc. Il nous a tenu un discours qui est rassurant parce qu'on sait qu'il va faire attention à ce qui est piégeux. On parle pas de choses vraiment énormes, mais quand on est jeune et qu'on a un premier appartement, bien sûr qu'on peut faire un peu des écarts.
J'ai une question à te poser. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il a fait une super fin de saison et tout a changé l'été dernier avec l'arrivée de Stéphane Moulin. Et au début de saison, il n'était pas du tout utilisé par le coach. Comment il a vécu cette période? Parce que tu touches au but, tu arrives là en Ligue 2, tu joues, tu fais tes matchs, tu es un des meilleurs sur le terrain dans le match du maintien. L'intersaison se passe et finalement, tu n'es pas dans les plans de l'entraîneur, du nouvel entraîneur en début de saison. Et ça, pour un jeune, c'est peut-être dur à gérer psychologiquement.
C'est dur, mais là une fois de plus, il a eu une réaction d'un garçon de peut-être 26-27 ans, qui aurait peut-être déjà connu ça une ou deux fois dans sa carrière. Il a pris ça comme... Alors, faut savoir, pour expliquer ça, faut savoir aussi que à Caen, que ce soit le coach, M. Moulin ou Johan Eudeline, le directeur sportif, sont assez protecteurs avec les jeunes. Ils ne veulent pas non plus aller trop vite. Et je pense que c'est bien, même si à un moment donné, il faut que ça démarre. Et c'est ce qui est en train de se passer là depuis le mois de novembre avec Brahim. Donc il le savait, ça, il l'avait compris déjà. Et puis la réaction qu'il a eue, c'est d'être patient. Même nous qui étions à l'extérieur peut-être un peu plus impatients, on en a discuté avec le club à un moment donné avant qu'il réenchaîne en novembre, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal, etc.
Il avait fait 3 des 15 premiers matchs de
Ligue 2. Exactement. On nous a dit que c'était normal, qu'il travaillait énormément à l'entraînement, qu'il n'y avait pas une seule séance où il arrivait sans avoir envie.
Il jouait avec la réserve du coup?
Non, parce qu'il était toujours dans le groupe. Il était toujours dans le groupe et honnêtement, le coach en était très content. Et au niveau du travail, Brahim nous a toujours dit aussi, je bosse tous les jours, ça va venir. Et il nous l'a dit de juillet jusqu'en novembre, quand il a recommencé à jouer, il nous a tenu le même discours et il bossait pareil à l'entraînement. Et ça, c'est super rassurant parce que c'est ce qui va faire la base de sa carrière finalement. Il a des qualités qui pour moi sont au-dessus de la moyenne. Ce qui va faire la différence, c'est le travail qu'il va mettre pour les exprimer.
Il avait eu une conversation avec le nouveau coach pour le prévenir où il a été mis devant le fait accompli?
Non. Alors c'est pas trop le style du coach déjà, et puis il faut l'accepter, c'est son management, okay. et c'est comme ça. Et Brahim n'a même pas cherché à en avoir finalement. Il bossait. Brahim, c'est un jeune garçon qui a conscience qu'à côté de lui, il a des joueurs expérimentés qui lui apportent beaucoup, comme Prince Onyangé, comme Mendy l'année dernière aussi, comme voilà, d'autres cette année. Et il prend tout ce qu'il y a à prendre en fait. Et il a réellement ces valeurs-là, quoi. Alors ça fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas ambitieux et qui n'a pas des objectifs. Mais il arrive à raison garder et à assurer un équilibre entre ce qu'il a envie de faire et la patience qu'il faut avoir dans ce milieu-là.
J'ai une question pour Mathieu. Est-ce que tu trouves qu'un club qui prend son temps comme ça, quitte à de temps en temps à ne pas faire jouer volontairement un jeune joueur, c'est une bonne décision.
Après, ça dépend qui t'as en face de toi. Ça dépend quel jeune, quel entourage. La Brême est bien entouré, lui-même il réfléchit, il est capable de comprendre cette décision et de se remettre au travail. T'as d'autres garçons qui vont baisser les bras, t'as d'autres entourages qui vont taper au bout de 3 jours pour faire partir le joueur. C'est tout un ensemble de choses. Après, quand en général ils sont plutôt comme ça, ils protègent assez bien leur.
Nous, on avait entendu attendu 5 jours, nous.
On demande à partir.
Non, mais des fois, tu sais très bien comment ça se passe. Ouais, tu pars en week-end, t'as l'entourage qui va te dire je comprends pas.
Et c'est rarement efficace.
Ouais. Non, c'est pas efficace, justement. C'est ce qu'on essaie de dire régulièrement dans ce coaching, que le football, c'est de la patience et du travail. Mais les entourages, des fois, les joueurs n'ont pas cette patience-là, malheureusement, pour diverses raisons. Et que des fois, ça rentre dans la tête du joueur. Donc, du coup, il travaille un peu moins. Donc, du coup, il ne gagne pas sa place. Et le discours, il est inversé. Mmh. Tu vas sur une pente descendante au lieu d'une pente ascendante, tout simplement.
Mais qu'est-ce que tu lui apportes alors au joueur en volontairement le privant de match, alors que tu sais qu'il pourrait peut-être jouer et t'apporter quelque chose?
À mon avis, après, c'était de la part du coach. Je pense que ce n'était pas que volontairement.
Ouais.
Je pense que le coach, au début, il arrivait avec des envies de mettre peut-être des joueurs avec plus d'expérience, de se rassurer lui aussi, de protéger aussi un peu les plus jeunes. Et donc, à un moment donné, t'as le talent et t'as le potentiel du joueur et t'es obligé de le remettre, tout simplement.
Ouais, et puis j'allais ajouter à ce que disait Mathieu, la situation globale aussi, parce que le coach, il réagit pas que par rapport à l'individu Brahim Traoré. Voilà, il y a une situation globale et peut-être que la situation très compliquée du club la saison passée, le début de saison, peut-être qu'il veut installer aussi son équipe avec des joueurs un peu plus expérimentés au départ pour permettre aux jeunes joueurs derrière d'arriver dans de meilleures conditions. Alors, ça s'est pas passé exactement comme le club pensait au niveau des résultats, mais voilà, c'est aussi, ça fait partie peut-être aussi d'une stratégie globale. Où on va faire jouer des jeunes joueurs à un moment donné où il y a un peu plus un tapis de points qui est un peu plus confortable, etc. etc. Alors, quand on ne peut pas le faire, on les jette ensuite dans le bain autrement.
Excusez-moi, mais j'adore faire ça. Mathieu Bodmer, vu que tu le connais très bien, si tu devais le comparer à un joueur de très haut niveau pour ceux qui nous écoutent, ce serait qui? Toute proportion gardée, toujours. Hein.
Je suis content qu'il pose la question.
Ouais. Oui. Un joueur de haut niveau, quoi, qu'on le compare à quelqu'un.
Pas simple la comparaison. Pour moi, il a un profil quand même atypique. Avec des prolonges des deux pieds, capable de faire plusieurs postes. Aujourd'hui, t'as beaucoup de joueurs qui sont spécialistes que d'un poste et qui n'ont qu'un pied, surtout dans les défenseurs centraux actuels. Avec les deux pieds comme ça,
bonne question, tu me laisses réfléchir un peu.
Je te laisse réfléchir, on revient dans un quart d'heure.
Moi, tu sais quoi, en toute humilité, si Brahim évoluait vraiment très bien, non, moi un peu à Marquinhos, parce qu'il est, il a cette capacité de relance, il a cette capacité à s'intégrer au milieu, il a une, techniquement, voilà, c'est du haut niveau.
Est-ce qu'il est élégant à jouer?
Ouais, il est plutôt élégant quand il va relever un peu le buste et justement se remplir au niveau musculaire, parce que ne l'oublions pas, il vient juste d'avoir 18 ans, donc il a pas, voilà, il est pas encore fini d'être formé.
C'est pour nous, il est vieux, dans scouting, il est vieux.
Ouais, je sais bien, mais musculairement, les muscles vont pas plus vite qu'avant, et il a besoin de se remplir, et quand il va se remplir, il va être encore plus élégant, et voilà, je le comparerais peut-être à un garçon comme ça.
Autre aspect important, c'est un jeune homme qui poursuit ses études. Et qui veut avoir son bac pour sa maman.
C'est cette année, le bac cette année.
C'est un peu compliqué.
Non, on lui souhaite bonne chance à Brahim, il va s'accrocher, il va passer le bac. Qu'il va l'avoir?
La maman qui va tout prix, qui passe le bac.
Pas confiant.
Aurore et Christian, c'est son papa et sa maman. Ils comptent. Non, c'est que c'est dur, quoi. C'est que c'est dur parce qu'il est, est tous les jours à l'entraînement. Bon, enfin, ce que connaissent les jeunes joueurs.
Il fait lycée l'après-midi, ça?
Parce que tu vas jamais à l'école, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'as plus le temps d'aller à l'école. Tu reviens des entraînements. Les gens pensent que c'est très facile. On s'entraîne que le matin et c'est fini. Non, tu finis à 13h. Tu lâches beaucoup d'influx dans tes premières années d'entraînement parce que tu es tout le temps, si tu veux le faire bien, tu es tout le temps au top au niveau de la concentration, etc. Donc, tu arrives, tu es lessivé. T'as envie de te reposer comme les pros se reposent la journée. T'es jeune, t'as peut-être encore plus besoin qu'eux de te reposer, d'être sérieux dans le travail masqué que demande une carrière. Et à côté de ça, il te reste un bac pro à préparer en ayant des cours au centre. Donc pas facile. Donc il s'accroche. On lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il va l'avoir. S'il l'a pas, en tout cas, il aura tout fait pour essayer de l'avoir. En tout cas, c'est peut-être le principal.
Et sa vie dans tout ça? Sa vie d'adolescent, de jeune de 18 ans? Il en a une quand même.
Ah, comme ce que Mathieu a connu, comme ce que j'ai connu, que tous les joueurs connaissent. Et non, t'es vite dans une carrière professionnelle, donc t'as pas énormément. Il a toujours ses deux meilleurs, deux ou trois. J'espère pas en oublier, mais en tout cas, nous on en connaît deux qui sont toujours autour de lui. C'est ses copains d'enfance qu'il avait associés et qui sont d'ailleurs de très bons amis. Voilà. Quand tu commences à devenir pro et que voilà, t'es un peu médiatisé, etc. C'est très important d'avoir des bons amis. Ils le sont. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour le reste. Voilà, donc
mais c'est important de le dire.
Il vit son début de carrière.
Il y en a qui ne se prennent pas sur le coup, mais ça peut être quelque chose, j'espère pour lui. Mais Mathieu, tu peux nous le dire aussi, ça peut être quelque chose qui revient plus tard dans une carrière. Un espèce de ras-le-bol.
Ouais, bien sûr. En plus, il a démarré vraiment très tôt, il est encore scolarisé. Tu fais beaucoup de sacrifices, il faut que les gens comprennent. Alors, je l'ai dit et je le redis, c'est le plus beau métier du monde. Parce que se lever tous les matins, jouer au foot, vivre de sa passion, c'est extraordinaire. Surtout si tu fais une belle carrière, tu vas visiter plein de choses et jouer des grands matchs. Mais à 16-17 ans, quand t'as un enfant, t'es censé être avec tes potes, aller avec tes copines, etc., bah, eux, ils connaissent pas ça. Eux, ils sont au stade, ils sont au centre, ils font les déplacements, il y a la récupération. Le soir, tu sors pas parce que t'es fatigué et que le lendemain, il y a un match. Donc, t'as pas d'adolescence. Mais après, Pierre, tu pourras te le dire. En tout cas, moi, c'est aucun regret.
Mathieu.
J'essaie de décrire à mes enfants.
Non, mais en général,
pour l'accomplissement, c'est magnifique.
En plus, quand tu réussis à faire carrière derrière, t'as aucun regret, forcément. Mathieu l'a dit, c'est exactement, le plus beau métier du monde. C'est plus dur pour ceux qui luttent jusqu'à 20, 21, 22, 23 ans, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à le faire et qui ont effectivement gâché une partie de leur jeunesse pour rien à la sortie.
Et puis les gars, une copine à 15 ans, ça dure rarement quand même, on est d'accord.
Ouais, mais elles ont compté quand même un petit peu, non?
Il n'est pas sentimental, lui.
J'aurais bien voulu te voir, toi, commencer à 25 ans.
Alors, c'est vrai qu'elle compte.
On en parlera à ta femme, toi.
Effectivement. Et on l'embrasse, d'ailleurs. Elle écoute Scooting toutes les semaines. Autre question pour toi, ce qui est rare. Non, c'est vrai.
Non, je vais demander.
Pierre Ducrot, c'est qu'il a déjà un équipementier. Il est égérie Puma.
Tout à fait.
Donc c'est là qu'on mise sur lui, même les marques misent sur lui.
Bien sûr, et ça aussi c'est quelque chose que Brahim doit apprendre à faire et à bien représenter. Il a la chance d'être effectivement sous partenariat avec la marque Puma, qui lui a fait confiance tout de suite et en premier. Donc voilà, c'est lié à son contrat de travail en plus sur la période, donc c'est parfait, c'est super.
Alors, on va parler des choses qui fâchent.
Ah, c'est sur un petite durée alors?
Non, il a signé au départ 3 ans.
Ah, donc c'est pas mal. Plus...
Oui, il y en a qui font plus, il y en a qui font un peu moins. Ouais.
Là, je vais m'adresser à Mathieu, le grand frère. Mathieu, tu connais le joueur parfaitement. Quel conseil tu pourrais lui donner pour la suite quand on vit une saison un peu compliquée en Ligue 2? On espère pour eux qu'ils vont se maintenir. A priori, le maintien, ça devrait aller. On ne sait pas trop les ambitions du club. Ils voulaient remonter dans les 2-3 ans, mais bon, il faut quand même reconstruire pas mal de choses. Quand est 15e pour l'instant? Est-ce que tu lui conseillerais de patienter un peu, d'avoir déjà en tête de découvrir l'élite, de penser à l'étranger? Et moi, l'exemple qui m'a frappé, parce que je trouve que les profils se ressemblent, quand j'ai pensé à cet épisode, je me suis fait la réflexion, c'était Alexis Beka-Beka, 20 ans, qui lui était justement joueur de Caen, milieu de terrain et même troisième défenseur central parfois. Il a 20 ans, il est parti au Lokomotiv.
Nsona qui est parti aussi.
Et j'ai regardé au Lokomotiv, il est devenu titulaire, il a joué tous les matchs de Ligue Europa. Donc tu vois, on ne peut pas dire que pour l'instant, c'est un mauvais choix, tu vois.
Non.
Ils viennent d'en perdre un, Kevin Nsona, qui vient de signer à Tabarin.
Bravo Loïc. Tu parles d'Alexis, je le connais aussi parce que sa famille habite à Évreux.
Ah, encore.
On n'est pas formé à Évreux, mais on se connaît. Je pense que mentalement, il était prêt, Alexis. Prêt d'accord. Pour partir à l'étranger. Dans sa tête, il est déterminé. C'est déjà un peu plus vieux, parce qu'il est 2001. 3 ans, c'est énorme à cet âge-là. Après, pour Brahim, je ne suis pas sûr que le choix de partir tout de suite soit bien. Parce qu'il a la chance de jouer. À cet âge-là, le plus important, c'est de jouer, c'est d'évoluer avec les pros, c'est de faire des matchs, c'est de prendre expérience, c'est de faire des erreurs, c'est de les gommer, de se remplir, comme l'a dit Pierre, physiquement, de continuer à progresser. Donc, moi, par exemple, à l'époque, j'étais resté 3 ans en Ligue 2 avant de partir à Lille, le temps de faire vraiment le tour de la question, et puis à un moment donné, tu passes à autre chose. Mais cet apprentissage m'a servi pour le futur, parce qu'on avait connu le maintien, des bonnes saisons, la Coupe de France, des choses comme ça, et de pas partir trop tôt. BKBK, c'est un petit peu différent parce que le club avait besoin d'argent aussi. Il y a une grosse opportunité financière pour le club, compliqué à refuser. Et que lui, c'était un projet sportif. À la base, il ne faut pas oublier que dans le club où il va, c'est Rangnick et à Manchester qui le fait venir. On connaît Rangnick dans le recrutement et dans la formation des jeunes. Et au final, il joue, etc. parce qu'il est très performant.
C'est en grande partie pour ça qu'il va là-bas, d'ailleurs.
Exactement. Et puis, quand il va là-bas, il sort des JO aussi avec l'équipe de France.
Tout à fait.
Donc, une expérience d'un autre niveau. Voilà. Moi j'aurais tendance à être un peu plus patient pour qui passe ses 50, 70 matchs avec le Stade Malherbe. Okay. Après, si Malherbe monte pas, tu prends une décision et il ira au-dessus à un moment donné. Ça, c'est une
certaine... Merci Pascal.
Là, il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Pierre. Il n'y a rien dans les tuyaux?
Si, il y a dans les tuyaux une prolongation de deux ans supplémentaires. Ouais.
Ah ouais. Donc 2026.
Ce qui est normal parce que c'est son club formateur et c'est... C'est une protection pour le club, c'est une sécurité pour Brahim, c'est quelque chose qui a fonctionné dans les deux sens et qui était une volonté des deux parties. Et donc,
Deuxième contrat à Caen.
Oui, voilà, ça sera une prolongation à son premier contrat pro. Ouais,
d'accord.
Exactement.
Mathieu nous dit souvent que le plus important, c'est le deuxième. Deuxième contrat pro.
Ouais, alors là, sur une prolongation, c'est peut-être pas de celui-là dont parle Mathieu, mais. Ouais. Alors, mais on dirait que ce sera le troisième pour Brahim, ouais. Ça sera le plus important.
Salaire 50 000 et tu prends la moitié, c'est ça?
Non, 150 000.
Ah, 150 000. Ouais, 150 000. Ah, on compte vraiment sur lui.
À quand, je suis pas sûr à quand.
Ouais, moi non plus. J'ai dû oublier les chiffres.
Bon, on s'est régalé. C'est un profil qu'on a adoré découvrir. Merci Pierre Ducos d'être venu. Merci Pierre. Régal de t'accueillir. Hein.
C'est gentil.
Si t'as d'autres pépites, tu viens.
Depuis deux ans que je suis parti, vous m'avez quitté qu'une fois, donc j'ai du mal à y croire quand même que c'est un régal.
Ah si, vraiment?
Bah oui, c'est la première fois que je reviens, donc.
Bah tu viens quand tu veux.
Mais bon d'accord. T'as pas de joueur à proposer. Thomas Lemar, il est trop vieux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Ah pour le scouting, ouais, c'est un peu vieux.
Mathieu va reprendre un club bientôt. On aura besoin d'un consultant pour scouting.
Exactement. Superbe.
Il dit pas non, Mathieu.
Mathieu dit rien.
Il est fou ce mec. Bon, merci Pierre Ducos.
Je lui souhaite. Même si c'est pas facile de reprendre. Ouais.
Et tout de suite, on entre dans le monde de gourou.
Dans le monde de gourou.
Le monde de gourou, on se régale toutes les semaines avec le suivi du Scouting FC. Mercato, c'est l'équipe qu'on a montée.
Mercato.
Il est obsédé par le mercato, Loïc Tanzi. On vous rappelle rapidement le concept si vous découvrez Scouting. C'est donc une partie de Football Manager avec Gourou, notre ambassadeur français, qui a lancé effectivement le Scouting FC. Il a remplacé le Stade de Reims dans le jeu et il a recruté tous les jeunes talents dont on parle. Il a des résultats exceptionnels pour l'instant. Lors du dernier épisode, on était arrivé fin janvier 2024. Oui. On était bien, on était champion de France, on avait remporté le trophée des champions, on avait des jeunes qui cartonnaient. Oui, mais voilà, on allait rencontrer le Barça en huitième de finale de Ligue des Champions. Je vois déjà une grimace, Loïc, je suis inquiet là.
Attends, on n'a pas fini le mercato, on était le 24 janvier.
Il est obsédé par le mercato.
Le mercato s'est terminé.
Parce qu'on a fait, on était le 24 janvier et on avait une offre de l'Atlético Madrid.
Ah oui, c'est vrai.
Pour Matteo Bonnemer, qu'on avait accepté. Est-ce qu'il est parti du coup?
Il est parti.
Ah là là. Là.
Alors, il a signé du coup en statut de joueur de rotation.
La 8 millions nouvelle... et demi, on l'a vendu.
Ah, 8 millions et demi, oui, avec 40% sur revente. La bonne nouvelle pour lui.
Je peux en acheter 15 à 8 millions et demi derrière.
C'est que sur la deuxième moitié de la saison.
C'est quelque chose de laisser partir un Bonnemer.
Ouais.
Je vais garder le père, hein, je vous le dis.
Le très bon côté, c'est qu'il a été titularisé à 16 reprises dans la deuxième moitié de saison à l'Atlético.
Pas mal.
Ah, pas mal du tout.
Ah ouais.
S'il donc, bien mieux plus, que les
s'il
autres.
S'il est revendu cher, on va reprendre 40% encore.
Alors oui. C'est vrai, ça aussi, rappelons-le, les gars, c'est qu'il nous est arrivé de vendre des joueurs. Vous m'avez sauté dessus quand j'ai vendu notamment Evan Rotundo.
Il nous est arrivé, tu veux dire, il t'est arrivé.
Oui, plutôt.
Oh là là, mais il remet tout sur moi. Non mais
c'est toi qui accepte les offres derrière.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est moi le patron.
On rappelle que tu es président.
Exactement. Président, Loïc Tanzi, directeur sportif, hein, c'est ça? Ou dirigeant?
Dirigeant.
Dirigeant, voilà, il pose les plots, c'est vrai. Et Mathieu Bodmer, conseiller du président. Voilà, on va dire ça comme ça. Non mais c'est vrai, les autres avaient un peu de mal à percer dans les clubs où ils ont signé. Il avait signé où, Rotundo d'ailleurs?
Rotundo avait signé à Liverpool, ouais. Et Garbi avait signé, voilà, à City.
Et c'était un peu dur pour les deux. C'était d'ailleurs, on pensait même à les faire revenir en prêt.
Ils étaient revenus en prêt. Ils ont fait une partie de la saison avec nous dans la rotation. Ça se passe très bien.
Et là, on est bon, Loïc. Hein, bravo.
Oh, les vents. Bah, tu t'as vendu 2 millions d'euros en même temps.
Ouais, mais on les reprend pas cher. Voilà, ouais, c'est affectif. Alors, autre mouvement au niveau du mercato hivernal de janvier 2024. Qu'est-ce qui s'est passé, Gourou?
Il n'y a pas eu d'autres mouvements d'ici la fin du.
8 millions et demi pour nous, c'est tranquille.
C'est pas mal. Après, avec 6 victoires en Ligue des Champions, financièrement, le propriétaire est très content.
On peut dévoiler aussi qu'à chaque fois, à chaque semaine, je redonne quelques noms un peu à Olivier pour qu'il aille un peu sur le mercato, nous chercher de nouveaux joueurs, le faire monter.
Ouais, c'est vrai.
Et comme ça, chaque semaine, on peut avancer sur nos joueurs et éventuellement, au départ, on a des
ça nous fixe certaines limites parce qu'on ne veut pas vous parler des profils qu'il y aura dans les épisodes à venir.
Bien sûr, complètement.
Exactement.
Voilà. Voilà. Donc finalement, ton équipe a très peu bougé. J'espère que ça s'est senti sur le terrain, mon vieux.
Alors, ça s'est senti sur le terrain, notamment parce qu'on a eu des problèmes de blessures et de fatigue du fait qu'il y a eu
un très gros
enchaînement de matchs.
Va droit au but.
On a perdu contre le Barça.
Le Barça.
Huitième de finale de Ligue des Champions.
Tu vas pas me faire ça.
Ce n'est pas le grand Barça. Le match aller était au Camp Nou.
J'espère que tu as éteint l'ordinateur et que tu l'as rallumé.
Non, il n'y a pas de ça ici. Le premier match était au Camp Nou et le Scouting FC est sorti victorieux 4-1.
Ouh là 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 là, qui a marqué?
J'ai pas les buteurs sous les yeux, non. Oh. Mais il me semble, je crois, El Shaddai a dû en mettre 2 sur corner.
Oh.
Il est absolument injouable.
Très grand.
Ouais. On a un bon tireur, il est très grand. Et Barcelone,
le
dans
bon
les
tireur,
airs,
on peut
pas
en parler pour l'instant.
C'est à la rouge.
Ah, c'est à la rouge, table.
37 passes décisives dans l'année.
Tu nous l'avais dit une fois. Ok, donc 4-1 à l'aller, on se frise les moustaches, on se dit bon, au retour. Au stade de l'Aune, ça va être facile.
On perd 2-1 chez nous quand même.
Mais on passe quand même.
Mais on était tranquille.
On passe.
On passe. Deuxième pépin. On passe. Mais on tombe contre le Bayern.
Je le sens pas.
Au bout d'un moment, c'est avec des champions. Voilà. Quand même. Quart de finale avec des champions. On peut pas prendre.
Le match aller est joué chez nous. On gagne 3-0.
Ah ben voilà,
c'est
en plus.
Pas vrai.
Dans un match très serré.
Ah
on
ouais.
s'en sort très bien.
100% de réussite.
Guillaume Rey, c'était héroïque.
Eh oui,
pas loin d'être homme du match dans un match qu'on gagne 3-0. Quand même. Incroyable. Match retour.
Tu sais qu'on se prend d'affection pour les gamins. C'est terrible.
Oui, pas mal. Ouais. Beaucoup. Ouais. Match retour, ça se complique. Très tôt, chez eux, le Bayern mène 2-0.
Aïe. Ouh là là. Et là, t'as transpiré, mon vieux.
On a transpiré fort parce qu'on touchait pas le ballon.
Ah ouais, on fait 2-1.
On termine le match. Non, on fait pas 2-1. Coup de chance pour nous. Ils ont un expulsé avant la mi-temps.
Mais oui.
D'accord.
Le match termine à 2-0.
Ah, donc on passe.
On passe. Alors,
rappelons
à
que l'arrêt du but à l'extérieur, c'est pris en compte dans FM, j'imagine.
Oui.
Bon, très bien.
Donc à 3-0, il y avait. Ouais, là, c'était pareil.
Ok.
Oui, mais chez eux, ça se compliquait fort. Dans un match en plus qui était très difficile.
Bon, on est en demi de Ligue des Champions, quand même.
On est en demi de Ligue des Champions.
Alors, moi, j'adore faire des déviations. Je suis désolé, mais question bête. On est en 2024 dans la simulation du jeu. Il y a qui au Bayern, par exemple ? Tu te souviens, non ? Il y a des transferts un peu...
Mbappé, non, qui avait signé là-bas.
Bizarre.
Mbappé,
ouais.
Dans notre partie, avait signé au Bayern.
Ouais. Ouais. Et il y a encore, là ?
Il y a encore. Globalement, l'effectif du Bayern change peu.
Ouais, c'est pas un club qui bouge beaucoup.
C'est pas un club qui bouge beaucoup. Okay. Il y en a certains où ça bouge fort. Paris bouge pas mal.
Ouais.
Mais le Bayern ne bouge pas énormément.
Par exemple, le Barça, il y avait qui quand tu les as joués, tu te souviens, non ?
C'est un pack, c'est qu'il y a dans la vraie vie maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Le Barça,
moi, qu'ils avaient déjà des gamins, donc ils doivent grandir comme nous, en fait. C'est vrai.
Ils avaient encore Depay. Oh. Mais il y avait Fatih, Gavi.
Ouais, tous les jeunes.
Pedri était là. La défense.
Rassure-moi, il n'y a plus Piqué quand même.
Non, il n'y avait plus Piqué.
Ah bon, bah, très bien. Ok.
Demi-finale de Ligue des Champions.
Voilà.
Demi-finale de Ligue des Champions. On tombe contre Arsenal.
Je te sens pas dans cette histoire, Gourou, depuis
Arsenal.
Le début.
Ici, Arsenal.
Je te sens pas dans l'histoire.
On a sorti le Bayern et le Barça.
Même
Arsenal
si
ne fait pas
beau,
peur.
Hein. Même si on perd en demi.
Ça va pas te dire ça, non ?
Match aller chez eux, nous faisons 2-2.
Je le paye quand même 9 500 € par mois, le gourou.
Bon, pas mal. 2-2, pas mal.
2-2, pas mal. Match retour.
Arsenal en demi de Ligue des Champions.
Ouais. Match retour chez nous, c'est un 5-0.
Oh là là, est-ce qu'on leur a mis ?
On va être champion d'Europe.
On leur a mis. Tanzi, la cravate sur le front.
J'ai plus aucun doute, on est champion d'Europe.
La coupe de champagne, tout ça.
J'ai plus aucun doute, on a gagné avec des champions, mes amis.
La finale de Ligue des Champions se joue contre Liverpool.
Voilà.
Non mais
Steven Gerrard, le coach.
Avant de parler de ça, quel reste... parcours de fou. Non, on a croisé tout le
incroyable.
Monde. Ah ouais.
Incroyable.
Liverpool, le Bayern, le Barça.
Même le groupe n'était pas simple.
En plus, ça.
C'est quand même trois bons clubs.
Mmh. Alors vas-y, la finale.
La finale.
Allez.
La finale, ce fut difficile.
Je te sens pas.
La finale, nous avons un total de 1 tir.
Et on fait 1-0.
Pour nous.
1-0.
Non, on ne marque pas.
Ah. Mais on ne perd pas.
On ne perd pas parce que Monsieur Rest, de nouveau héroïque,
oui.
Fait pas moins de 17 arrêts dans le match.
Mais attends, mais alors, bon. J'arrête les déviations parce que Loïc va me sauter dessus.
Mais on sait même pas ce qu'on a fait encore en championnat.
Ouais.
Vas-y.
Non, mais Rest, il est incroyable. Rest, il doit être appelé en équipe de France avec tout ce qu'il fait en Ligue des Champions.
Il est absolument incroyable.
Ah ouais.
Il n'est pas encore appelé en équipe de France.
Pas encore.
Mais ça ne va pas tarder, je pense.
J'imagine.
Parce qu'en gros, il joue très bien et il progresse très fort.
Le pitchoun.
Donc, grâce à Guillaume,
ouais.
Nous allons. Jusqu'à la séance de tir au but.
Il est bon sur les tirs au but ?
Je l'ai découvert à ce
moment-là. Ouais, c'est ça, je l'ai découvert à ce moment-là quand je transpirais. Il était 2h du matin chez moi.
On transpirait fort.
Allez, on a
d'autant
fait
plus
on a fait
que les tireurs qu'on a sont pas incroyables.
Qu'est-ce qu'on a fait ?
J'aime pas le suspense.
Ah non, mais non.
On l'emporte
bah oui,
au penalty avec 5-4 sur un arrêt de Guillaume sur le 5e tir au but.
Oh là là,
Guillaume, je mets une clause à 150 millions.
Et on fait pas un échec.
Non, 5-5.
Et courage des gamins, parce que c'est que des gamins dans l'équipe.
Et nos stats un peu au niveau des joueurs sur la Ligue des Champions ? Tu sais qui est le meilleur buteur, meilleur passeur ?
Le meilleur buteur, on ne l'a pas fait. Le meilleur passeur, c'est El Arouche.
Non, mais El Arouche.
Le meilleur buteur qu'on a fait, c'est El Shaddai.
Ah ouais ?
Il a mis 8 buts dans la
Ligue des Champions.
Sur l'ensemble de la Ligue des Champions.
Que sur Coup Franc.
Ouais.
Ou sur Coup Franc.
Tu vas m'annoncer qu'il est parti en juin, El Shaddai.
Mais attends, en Ligue 1, on a fait quoi ?
Non, il est resté. Alors, en Ligue 1, on termine avec 5 matchs nuls et une défaite. Nous sommes champions, on a gardé exactement
les comme elles viennent.
les 6 points de différence avec Paris qu'on avait à la mi-saison.
Oui.
Sur les 34 matchs maintenant, vu qu'on est passé à 18 clubs. Donc,
champion.
Champion.
Bravo.
On a gardé notre avance sur Paris, on a
gardé
le cap.
Donc on a tout, et on manque la coupe. Est-ce qu'on a tout fait cette année ?
Non mais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?
Et nous avons le quadruplé.
Ah oui, voilà.
Oh
la
là
coupe
là
de
là.
Mais ça va être délicat la saison prochaine.
Comment
parce qu'il y a quand même pas mal de matchs là où on s'en sort très bien sur des coups du sort, etc. Ça va pas arriver systématiquement.
On fait quand même quadruplé, quoi qu'il arrive.
Oui,
on
non, non, mais.
Enfin,
voilà, mais
désolé, on a gagné avec des champions.
Oui, oui.
Parce qu'on peut être tenté de le faire. Précisons que tu ne recommences jamais un match.
Je ne recommence jamais un match.
Ça, c'est une règle d'or.
Sinon, je n'aurais pas été éliminé par Chelsea la saison dernière.
Ouais, voilà. En Ligue Europa. Non, mais c'est important de le dire. Parce que certains peuvent se dire, ouais, il triche. De toute façon, à chaque fois, il recommence jusqu'à ce qu'il gagne.
Bah, je triche, entre guillemets, dans le sens où je sais ce qui marche bien ou pas dans le jeu. Typiquement, les corners sur El Shaddai, ce genre de choses.
Ouais, mais c'est ça pas vraiment de la triche. C'est pas j'arrête l'ordinateur au milieu d'un match parce que je perds.
Et donc, El Shaddai, meilleur buteur aussi en Ligue 1 ou non ? Non. On a quand même un meilleur buteur ?
Pas du tout.
C'est pas Baptiste Tell.
Alors, le meilleur buteur de Ligue 1, c'est Alexander Isaac au PSG.
Ouais, c'est pas vrai.
Et au PSG, d'accord.
Ouais. D'accord.
Il a mis 28 buts dans la saison.
J'avais dit Suédois.
Et notre meilleur buteur à nous, et notre buteur qu'on n'a pas encore fait, qui est appelé en équipe de France également. Donc, du coup, on le verra là une fois prochaine.
Ouais, alors, très bien. Encore fait dans... Et bah, bravo, Gourou. Bravo, Gourou.
On est, pas... on est où dans le
début du mercato ? Il y a eu un début de mercato quand même.
On est à quelle date là ?
Nous sommes à la veille du trophée de champion de la saison suivante.
Ah, oui. donc la moitié du mercato.
Une bonne partie du mercato est fait, oui.
On résiste ?
On a trois joueurs qu'on n'a pas fait qui sont partis. Pour annoncer les prix. Je peux annoncer les prix et les clubs ?
Vas-y.
On a un joueur qui est parti à Newcastle pour 10 millions. On en a un qui est parti au Bayern pour 22 millions.
Ouais.
Et un autre qui est parti à la Juve pour 28 millions et demi.
Des titulaires ?
De la rotation.
De la rotation.
Deux, c'est des milieux de terrain et l'autre, c'est un gardien.
On n'a pas encore d'offres complètement folles pour les joueurs qui cartonnent comme à la Roue.
Alors, on en avait eu la saison dernière. On avait eu des offres qui étaient arrivées dans les 70-80. On n'en a pas eu de nouveau cette année.
Donc là, on a trois joueurs qu'on n'a pas encore fait dans le scouting qui sont partis.
C'est ça. Et on a eu un autre départ qu'on a déjà fait. C'est Hugo Vogel qui a signé à Tottenham pour 21 millions.
Ouais,
pas mal.
Bon, t'avais un remplaçant ?
Il était très très bon dans ce qu'il faisait à gauche systématiquement.
T'avais conseillé un arrière-gauche de remplacement ?
De tête, pas encore.
On en a un déjà.
Ah. On en a à gauche chez nous ?
D'accord. Okay.
On a un défenseur qui peut jouer à gauche sur tous les côtés, donc ça va proche.
Pas bonne mère, non.
Non, bah bonne mère, il y a l'Atlético maintenant. Mais...
Ouais, non, mais oui. Il y a l'autre, il y en a deux. Non, t'as pas recruté le plus petit. Non,
il n'est pas
dans le jeu.
Ouais, c'est vrai.
Et si tu parlais du papa, moi j'ai besoin de gens qui.
Ah non, surtout pas le papa.
On n'a pas encore de.
Bon, et on est quand même sur l'épisode de Brahim Traoré. Donc, où en est Brahim ? Est-ce que c'est un cadre ? Est-ce que c'est un joueur qui joue ? Est-ce que le fait qu'il ait un passé en professionnel t'a aidé à l'intégrer ? Comment ça s'est passé pour lui ?
Brahim fait partie des joueurs qui n'ont pas commencé dans notre effectif au départ.
On a été acheté à quand du coup ?
Qu'on a essayé d'acheter, que j'ai pas encore réussi à déloger.
D'accord. C'est pas vrai.
Caen préfère le garder pour le moment, où il demande des sommes.
Combien il demande ?
Alors, il est évalué entre 5 et 10 millions.
Allez, on va
décider.
Ils
m'ont fait
si
des négos entre 15 et 20 pour le moment.
Eh bien, tu sais quoi ? On l'a quand même vendu pour 60 millions d'euros quasiment là sur cet été-là.
Ouais.
Eh bien, tu sais quoi ? À 15, on va le chercher.
Ok.
Sur le prochain épisode, on se dit que l'objectif, c'est de faire le premier gros investissement du Scouting FC. On vient de terminer l'épisode sur Brahim Traoré.
Ouais.
On ne l'a pas encore acheté. Ouais. À 15, on va l'acheter.
Bah, on le fait parce que Pierre Ducrot et Mathieu Bodmer viennent de nous dire que c'est un crack. J'espère qu'ils ne se trompent pas. Et que FM est fiable, surtout.
Donc, du coup, c'est un titulaire à Caen, pour le coup.
Ouais.
Il n'est pas titulaire, mais il joue. Est-ce et il a un potentiel.
Il a une bonne évolution pour l'instant ? Tu as pu regarder ses notes ?
Je ne sais pas s'il a bien évolué dans le sens où ce n'est pas un joueur que je regardais au début.
Ouais, voilà.
Du coup. Mais il est pas mal.
D'accord. Bon, je pense que c'est un joueur qui peut rentrer dans ta rotation.
Oui.
Ok, très bien.
Donc, tu nous conseilles d'investir ?
On peut. Bah, d'autant plus que là, il y a eu des départs à ce poste. Donc,
Allez, on investit sur Brahim Traoré. C'est le prochain épisode, semaine prochaine. Mm. On saura si Brahim Traoré fait partie du Scouting FC.
Super. Eh bien, parfait. Merci, Gourou. Et quadruplé, mais après, je me demande qu'est-ce qu'on va
dernière,
faire
Dernière petite update en y passant.
Tu veux bien rester, Gourou hein. T'as un contrat jusqu'à quand ?
Il doit me rester un ou deux ans de contrat. Mais ça fait six mois que je pousse pour avoir une revalorisation.
Loïc, commence à travailler là-dessus. Hein.
On a aussi
du scouting chez les coachs, on n'a pas fait ça encore.
Ah, si on perd Gourou, ça va être plus dur.
Nous avons un autre international avec Habib Diarra qui a fait trois sélections au Sénégal.
Génial.
Et il a fait trois sélections, trois buts.
Le papa doit être fier, le papa qu'on avait eu dans le scouting.
Trois sélections, trois buts au Sénégal.
On a eu le papa dans le scouting qui est un footballeur sénégalais aussi. Exactement.
Ouais, fabuleux. Et d'ailleurs, Habib qui avait démarré devant, donc c'est marrant de le voir attaquer, enfin de le voir marquer des buts.
Exactement. Et tu te rappelles de tous les
épisodes. Ah oui, j'adore. Je me régale. Effectivement. Bravo, Gourou, en tout cas. Merci pour cette avancée.
Ça va être difficile de rester sur cette ligne.
Juin 2024. J'ai même pas envie de calculer l'âge que j'aurai parce que ça va me faire mal au cœur. Mathieu, encore pire. Et puis toi, Loïc, j'en parle pas.
Bah, deux ans de plus. Donc, c'est pas très dur à savoir.
Voilà, exactement. Bon, merci.
Pour l'instant, le problème, c'est la fin de cette saison-là. Quand on aura fait 15 ans dans le jeu, Là, ce sera plus compliqué. Les joueurs prendront leur retraite déjà.
Ouais. Alors l'avantage,
nos jeunes seront à la retraite. Quand je vais devoir faire l'annonce qu'on a changé de propriétaire parce qu'il a disparu du jeu en étant à la retraite.
Voilà. Ouais,
encore une fois que j'aurai une maison à Saint-Barth, à Marrakech, à Bora Bora, vous me laissez tranquille.
Pas un moment
pour profiter de la vie quand même. Non, mais c'est intéressant en tout cas de les suivre. Merci Gourou. Merci beaucoup. En reparlera de toute façon. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions sur les différentes plateformes de téléchargement. Si vous avez des questions FM à poser à Gourou, vous y allez.
Ou même sur Twitter. Scouting RMC.
Le hashtag Scouting RMC. Si vous voulez des petits tutos FM personnalisé pour faire grandir les jeunes dont on parle, n'hésitez pas. Voilà, vous avez l'état des lieux du Scouting FC. On vient de parler de Brahim Traoré, défenseur cannais. C'était encore un épisode très intéressant. Et évidemment, on lui souhaite une grande carrière et vous le savez, s'il perce au plus haut niveau, vous pourrez vous dire que vous l'avez découvert ici dans Scouting. Merci Gourou, merci Loïc.
À la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau talent. Salut à tous.